France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'est compliqué hein, d'être un homme, c'est comme ça que commence le documentaire auquel nous nous adossons volontiers dans ce téléphone sonne ce soir. On a déjà touché le sujet du doigt, après l'affaire Pellico évidemment, après la série Adolescence aussi, comment élever un fils aujourd'hui dans une société post-MeToo qui a compris mille choses sur les comportements masculins qui ne doivent plus jamais exister, qui a aussi progressé, qui a réfléchi, on va pas faire comme si on était au point zéro, mais enfin qui a aussi le sentiment que parfois c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que en même temps que nos sociétés essaient péniblement de sortir des stéréotypes de genre et du comportement patriarcal, les sites masculinistes sont très visités par les ados. Ils pullulent sur les réseaux sociaux. Le documentaire de France Télé, d'ailleurs, ne s'appelle pas « Comment éduquer nos fils ?» Il s'appelle « Éduquons nos fils ». Il n'y a pas de point d'exclamation dans le titre, mais moi j'en ai mis assez spontanément, d'ailleurs. Les pères que vous y entendez, et l'un d'eux est avec nous ce soir, ont très mal commencé. Ils ont été élevés à ne pas pleurer même quand ils ont mal, à ne pas montrer leurs émotions, parfois à distribuer des coups dans la cour de récré. Le plus souvent, d'ailleurs, dans les années 80, où, comme le dit très bien l'un d'entre eux, on vendait des voitures avec des femmes à poil et l'image de l'homme, c'était Rocky ou Rambo, Jean-Claude Van Damme ou Schwarzenegger. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Les pubs ultra sexistes ont disparu et on pourrait rentrer trois Timothy Chalamet dans un seul Stallone. Mais quand vous demandez à des enfants dans une classe si certains sports sont réservés aux hommes ou aux femmes, garçons et filles sont d'accord pour vous dire que la danse c'est pour les filles et la boxe c'est pour les garçons. La cour d'école reste un concentré de stéréotypes de genre. Alors, vous messieurs, peut-être que vous aussi vous avez été élevés dans cette ambiance et vous interrogez beaucoup sur ce que vont devenir vos fils. Peut-être que vous êtes un peu paumé aussi, que vous sentez bien une pression dans votre manière d'éduquer votre fils, que vous essayez, que vous tâtonnez encore. Peut-être que pour vous aussi, et comme le dit aussi l'un des personnages du film, éduquer son garçon c'est un tour de force. On va essayer de vous entendre, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenue.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alexis, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous. Bravo pour toutes vos émissions.
Merci beaucoup. On vous écoute, Alexis.
Donc, je suis dans le sud-est, un pays de rugby où j'ai grandi, où j'ai joué au rugby et j'ai arrêté justement parce qu'il y a aussi ce genre de stéréotypes dans la cour d'école, dans les stades, dans les vestiaires et tout ça. Dans les panneaux publicitaires, à la télé, que je ne regarde plus d'ailleurs non plus. Et voilà, moi j'ai la cinquantaine passée, j'ai un bébé de 8 mois, deux garçons ados, et qui sont dans une phase très critique pour l'un et encore un peu excitante pour l'autre, où c'est les stéréotypes qui étaient un peu enfouis, puisqu'ils ont grandi avec des dinettes, avec le partage des tâches ménagères quand même, qui est plutôt très incité. Avec des t-shirts roses que je leur achetais, justement pour ne pas genrer ni les couleurs ni les activités, avec du tricot, des activités réservées à tout le monde, en fait. Voilà, donc avec un certain équilibre, et il y en a un qui est en train de faire sa crise d'Oedipe, donc c'est compliqué. Et c'est pas facile, parce que bien sûr que si moi j'étais élevé dans une certaine violence, je n'ai pas transmis ça. Mm-hmm. Hors de question, mais je ne veux pas que ça se transmise ainsi. Et c'est une affaire non seulement des pères, mais des mères, puisque les mères, comme elles ont été aussi dans la cour de l'école, véhiculent ça. Et la mère de ces garçons, et qui je ne vis plus, revient sur ce genre de type d'éducation dans sa famille.
Quand vous dites que c'est compliqué avec votre fils Alexis, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que vous le voyez faire au fond en disant « mais attends, c'est pas comme ça que je l'ai élevé, donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment ?»
Ah ben il avait toujours tendance à écraser son petit frère, et puis maintenant qu'il y a une famille recomposée derrière, il écrase ses petites sœurs. Et comme il passe beaucoup trop de temps sur écran, il y a une violence énorme. Après, il y a le contexte géopolitique qui va influer jusque-là, je pense. Mais voilà, mais c'est assez gros quand même comme influence. Ou la violence, mais voilà, c'est bien la guerre, et donc c'est bien pour les garçons. Et puis les hommes doivent être forts, et puis la compétition, c'est pour écraser les autres. Mm-hmm. C'est pas pour grandir soi-même. C'est là le problème. Mm-hmm. C'est que c'est pas pour grandir soi-même, c'est pour écraser les autres. Mm-hmm. Les filles peuvent pleurer, les garçons n'ont toujours pas le droit de pleurer. Le courage, c'est d'aller écraser les faibles. C'est pas de dire qu'on a peur ou qu'on a besoin de pleurer. Quoi. Mm-hmm.
Merci beaucoup Alexis, merci vraiment parce que votre témoignage est précieux et qui nous aide vraiment à commencer à discuter ensemble pour cette émission. Autour de la table, il y a Marie-Christine Gambart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire « Éduquons nos fils » diffusé donc après-demain mercredi sur France 2.
Dans le
cadre, exactement, dans le cadre de l'émission Infrarouge, il y a Cédric Rochtein qui est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des pères du documentaire, vous avez un podcast qui s'appelle « Papatriarcat » et quand je disais que certains des pères de ce documentaire, tous d'ailleurs, ont mal commencé, vous aussi. Vous avez très mal démarré. Il y a Floriane Vol qui est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
La directrice du plaidoyer de la Fondation des Femmes. Bah, c'est presque vers vous, Cédric, que j'ai envie de me tourner d'abord, parce que j'entends dans ce qu'il dit, ce que j'ai entendu dans votre bouche et dans la bouche d'autres, d'ailleurs, dans le documentaire de Marie-Christine. J'entends les hommes doivent être forts. Alors, c'est les images de guerre, effectivement, qu'on peut voir ici et là, mais l'homme doit écraser les autres, l'homme ne doit pas pleurer. Et c'est fou quand même, parce que voilà un jeune homme qui a été élevé là, dans les années 2000. Vous êtes évidemment beaucoup plus vieux, enfin beaucoup, élevé dans les années 80, j'imagine, à peu près dans ces eaux-là.
Ouais, voilà. Je suis dans 83.
Voilà. J'ai l'impression d'écouter ce que vous dites alors que vous avez 30 ans de plus.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je trouve que ce que ça nous dit, en fait, c'est que la société n'a pas tant évolué que ça, mine de rien, dans le fond. Et moi, ça me fait beaucoup penser au documentaire, justement, à un moment où je discute avec ma compagne et où on s'accorde à dire que nous, notre rôle de parents, on a beau le faire autant qu'on peut, autant qu'on veut, avec tous les garde-fous qu'on peut mettre et tout l'amour qu'on peut mettre dedans. Il y a aussi la société qui est là, il y a l'école qui est là, et c'est très bien souligné dans le documentaire. Moi, je trouve que Alexis qu'on a entendu, il a mis beaucoup de choses en place. On ne peut pas lutter seul non plus contre une société. Par contre, on peut rester un repère fiable de masculinité qui se veut dans l'acceptation de toutes les émotions et dans le rejet des formes de violence pour dominer l'autre.
Est-ce que, Floriane Vol, vous direz qu'on est encore dans des stéréotypes, au fond, qui ont vraiment la vie dure et dont on n'arrive pas à se débarrasser? Ou est-ce que vous diriez qu'il y a un retour, en fait, de ces valeurs-là aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est un retour de bâton post-MeToo ou simplement une société aujourd'hui qui est plus violente à certains égards et qui emmène à ce genre de comportement. C'est quoi votre conclusion à vous?
Alors, l'un et l'autre, j'aimerais dire.
Mon capitaine.
C'est vrai qu'on est, on peut pas faire abstraction de la société dans laquelle on est, qui est une société encore profondément inégalitaire et dans laquelle la virilité, la domination est valorisée. Après, MeToo et puis bien sûr les progrès féministes avant nous, il y a aussi, moi j'ai toujours un peu d'optimisme parce que il n'y a pas plus rapide que la conquête des droits pour les femmes et que la conquête de l'égalité. Donc c'est sûr que ça peut faire peur. Et c'est aussi ce qu'on observe, vous avez parlé de retour de bâton, c'est le backlash théorisé par Suzanne Faludi de « à chaque progression des droits des femmes, il y a des mouvements conservateurs qui se replient sur nous ». Et là,
alors, sauf qu'elle
année,
l'a écrit après la première vague d'émancipation féminine, donc ça fait un bail que ce système-là finalement semble se reproduire.
Oui, on a vraiment l'impression de voir en effet ces mécanismes à l'œuvre. Je pense
tout
à l'élection
temps, en fait.
De Donald Trump.
Par
et c'est vrai que là, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et c'est probablement à ces réseaux-là que sont qui est exposé le fils de monsieur, c'est cette prolifération de débats, discours, vidéos masculinistes, et c'est très pernicieux parce que donc des discours qui survalorisent des stéréotypes virils, masculins, violents à l'égard des femmes. Et ces vidéos-là, elles leur parviennent parce qu'elles sont un peu déguisées sous forme de développement personnel. Et en même temps de ce mouvement-là, ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on voit nous à la Fondation des Femmes, c'est que les discours qui pourraient s'opposer à ça, sont vus comme politiques et ils sont mis en arrière et sont mis en retrait par les plateformes. Donc c'est vrai que d'un point de vue d'observatrice, on peut être assez inquiète.
Comment, Marie-Christine Gambart, est-ce que vous avez eu du mal à les trouver, les Cédric, ou est-ce qu'au contraire, en fait, on se dit que des pères comme ça, qui font ce qu'ils peuvent, qui parfois sont paumés, et c'est bien de pouvoir dire qu'on est paumé, vous avez l'impression qu'en secouant un arbre, il en est tombé 10, en fait, pour vous
Non, il n'en est pas tombé 10. D'abord, je voudrais dire que tout ce casting, entre guillemets, de ces quatre formidables hommes qui témoignent dans le film, a été fait par Émilie Gral, qui est co-autrice avec moi. Et donc, c'est vrai que d'emblée, de toute façon, on cherchait des hommes qui avaient réfléchi à tout ça, qui peut-être avaient connu de la violence, mais qui en tout cas étaient soit résilients, ou en tout cas avaient progressé, avaient envie de nous le faire partager. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout cherché du côté des masculinistes,
parce que
de toute façon, il n'y avait rien à en tirer. Voilà, donc ils sont suffisamment présents comme ça. Donc je sais qu'Émilie a fait un gros travail, et puis ce qui était évident pour nous en tout cas, c'est qu'il fallait que ce soit à tout prix les hommes qui se réapproprient cette problématique de la violence masculine. Voilà, on était c'était deux femmes, co-autrices du film, mais on voulait vraiment que ce soit porté par les hommes. Car si c'est porté par les hommes, ça a peut-être une petite chance d'être entendu par les autres hommes, qui pour moi est un petit peu l'objectif, en fait, du documentaire. Je pense que les femmes, on est tous acquis à cette cause-là.
Ah ben, allez savoir, parce que moi, j'ai été très frappée dans le documentaire, mais peut-être que vous aussi, Cédric Rochetten, en le voyant, dans la salle de classe, avec ce prof de gym qui essaye de casser ces stéréotypes-là, parce qu'effectivement, le sport est un véritable outil pour lever les stéréotypes, quand il demande aux garçons, comme aux filles, alors la danse c'est pour qui, le rugby c'est pour qui, pardon, mais alors les filles sont exactement comme les garçons, pile dans le panneau quand même. Donc ça dit, et il a raison notre auditeur Alexis tout à l'heure, ça marche aussi du côté des filles quand même, hein,
oui, les ados.
Complètement, oui, c'est des stéréotypes totalement intériorisés. Ouais. C'est d'ailleurs une des grandes forces aujourd'hui des stéréotypes de genre, c'est qu'on peut avoir des stéréotypes, les femmes peuvent avoir en elles des stéréotypes intériorisés qui desservent leurs propres droits, tout comme les hommes aussi ont des stéréotypes qui leur font du mal. Et le but, c'est de, justement, comme le fait de ne pas pleurer, par exemple, etc. Mmh. Et le but, c'est justement de lutter contre ça, qu'on puisse ouvrir le champ des possibles pour tous les petits garçons et toutes les petites filles qui sont là.
Mais c'est vrai que les mères ont quand même une responsabilité dans l'éducation des filles, alors, c'est très clair.
On est d'accord. Est-ce que on va aller au standard dans un instant, mais Floriane Volt, est-ce que ça vous étonne quand même une jeune fille c'est, je ne sais pas, c'est des ados où ils ont une 13 ans, 14
ans. Ils sont
en classe de 3e. Les filles comme les garçons, en fait. Mais vraiment, les filles de la même manière.
Non, c'est assez conforme à ce qu'on voit. C'est vrai que s'il y a une progression de la prise de conscience des stéréotypes, et c'est vraiment le rôle de l'école, et heureusement que c'est ce professeur qui a cette parole-là, il y a d'autres lieux de socialisation qui est également d'autres modèles que voient nos enfants qui vont à l'encontre d'une égalité.
Voici Romain qui est avec nous. Bonsoir, Romain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, c'était plutôt un témoignage que je voulais apporter. C'est, et je me fais porte-parole de mon fils, qui fait, lui, une distinction entre les papas doux et les papas rustiques. Donc, je trouve les termes assez sympas, enfantins, ou en tout cas, on peut imaginer ce qu'il y a derrière. Et pour lui, du coup, le papa doux, c'est le papa qui fait des bisous le soir, qui peut pleurer devant un film, qui peut dire « Oui, tu as le droit de pleurer toi aussi devant un film ». Et à l'opposé, les papas rustiques, qui sont les papas « Sois fort mon fils, ça ne sert à rien de pleurer », voilà. Mm-hmm. Et ils s'amusent à descendre les papas des copains, les...
C'est ça qui est marrant, en fait, parce qu'il les voit, donc les autres, ils voient comment il interagit avec ses camarades de classe, et j'imagine qu'il en déduit aussi s'ils ont un père rustique ou un père doux, comme vous dites, non ?
Exactement. Si jamais un copain de lui dire « Ben non, moi j'ai interdiction de pleurer à la maison, c'est interdiction ». On ne me laisse pas pleurer facilement à la maison, c'est dans la case papa rustique. Mmh. En revanche, il y a des bisous le soir, et c'est une petite histoire qui est lue, ou des câlins régulièrement, ou des je t'aime qui sont exprimés, alors on sera dans la catégorie papa doux. Mmh.
Alors moi, j'imagine que vous êtes dans la catégorie des papas doux, Romain.
J'ai la chance d'être un papa doux, et il a l'air très content d'avoir un papa doux.
C'est ce qu'il vous dit maintenant. Attendez qu'il grandisse, et vous allez voir ce que vous allez prendre.
Il commence à grandir, peut-être que c'est différent. Cela dit, ça m'a rassuré quand j'ai regardé Adolescence, où je me suis dit, bon, les premières pierres sont pas trop mal pour mon fils. Bon, à continuer à construire, mais voilà, c'était pas trop mal engagé.
Merci beaucoup, Romain, pour votre témoignage. Cédric Rochetten, vous aussi, vous êtes un papa doux, mais moi, j'aimerais que vous me disiez pourquoi c'est pas si simple d'être un papa doux, en fait. Pourquoi ça a été... C'est moins inné que ça en a l'air, en fait. C'est juste ça que ça veut dire.
C'est absolument pas inné, non. Mmh. C'est absolument pas inné. Moi, je pense qu'il faut aussi poser les mots qui sont clairs, nets et précis. Moi, personnellement, j'ai fait une thérapie il y a un petit peu plus de 10 ans. Mmh. Et sans ce parcours de santé mentale et de la santé mental des hommes et le fait qu'on se prenne en charge nous-mêmes, c'est un énorme sujet, mais bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais c'est un gros sujet. Et sans ce parcours-là, je serais absolument pas à l'aise avec mes émotions. Moi, j'ai pas pleuré de mes 9 ans à mes 32 ans.
Ouais, c'est ce que vous dites.
C'est quand même gigantesque.
31 ans, vous dites. 31 ans, là, vous dites 39, oui. Ah bah dites donc.
Non, 31, pardon. C'était au moment de la thérapie, donc c'était il y a 10 ans, pardon. Mais voilà, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, voilà, il faut faire ces parcours-là, il faut oser libérer la parole là-dessus. Et bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on est toujours en train d'opposer les papas doux. Là, on
j'allais dire, on peut aimer son fils en étant papa rustique.
On peut être papa.
Je veux dire, c'est pas qu'une histoire de bisous.
Mais c'est surtout qu'on peut aussi, on peut aussi aimer son enfant, lui dire, lui raconter des histoires, lui faire des bisous, et en même temps encourager la persévérance, l'effort, etc. Et l'enthousiasme, bien sûr, des enfants.
C'est pas qu'une histoire, effectivement, de bisous, Marie-Christine Gombard. Ça, vous l'avez constaté dans votre documentaire. documentaires, j'imagine, parce que c'est, y compris les papas rugueux, comme dit notre ami auditeur, aiment évidemment leur fils. C'est aussi ce qu'on reproduit avec eux, ce qu'on reproduit malgré nous, en fait.
Et puis les craintes et les angoisses aussi, de se dire si on les incite à être trop doux, trop cool, etc. Est-ce que du coup, on fait pas des enfants qui vont être les premiers à être harcelés à l'école? Est-ce qu'il faut pas leur apprendre un petit peu à se défendre pour être fort? C'est complexe, c'est difficile l'éducation de d'éduquer un garçon, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des millénaires comme ça de stéréotypes et que la société n'aide pas beaucoup à trouver ses points de repère.
Mais c'est fou comme Florian Volt aussi, on est en 2025 quand même, enfin bientôt 26, on est effectivement 7 ans, presque 8 ans après MeToo désormais, on a l'impression qu'il y a toujours, où qu'on regarde en fait, et dans les cours de l'école particulièrement, mais où qu'on regarde, quelque chose de prédéterminé contre lequel il faut lutter. Donc il y a ce qui est prédéterminé, et puis on essaye de déconstruire ça. On se dit quand même qu'on a une mini-génération, là, après MeToo, donc c'est les enfants qui rentrent à l'école et qui ont peuvent avoir aujourd'hui 13 ou 14 ans, eux aussi, finalement, sont victimes de ça.
Oui, alors c'est parce que aussi, c'est monumental, en fait, de cette...
Il n'y a rien qui va de soi, en fait. Même maintenant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va de soi.
Oui, parce qu'on grandit dans un... On vit dans un système, on est héritier, héritière toutes, et même la plus féministe des féministes a elle-même de la misogynie intégrée. C'est-à-dire qu'on est vraiment héritier de ce système de domination masculine qui a été plus que documenté. Donc c'est aussi ce qui crée la virilité, c'est ce qui crée ce système. Et c'est très dur aujourd'hui d'éduquer des garçons, c'est très dur d'éduquer des enfants avec un autre monde quand tout... nous semble nous ramener à un autre système plus conservateur. Et je crois qu'on a aussi un rôle... voilà, c'est aussi... C'est très dur et puis c'est très politique. Ça fait 20 ans qu'il y a une loi pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui vient enfin d'être mise en œuvre là à la rentrée. C'est autant de générations d'enfants à qui on n'a pas donné les clés, d'enfants qui demain sont des adultes ou qui sont déjà des adultes, à qui on n'a pas donné les clés pour parler à leurs enfants et voilà, appréhender ce monde et ses difficultés et surtout ses violences.
On a Timothée sur WhatsApp qui nous dit ceci: j'ai 46 ans, un garçon de 16 ans, une fille de 13 ans, ils vont bien, ouverts à la vie, etc. Nous dit-il, moi je crois que j'ai plutôt bien avancé dans ma déconstruction, dit-il. Et pourtant, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'élever mon fils que ma fille, et ça depuis leur plus jeune âge. Je nous sens tellement seuls face à ce qu'ils peuvent voir à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les cours de récré depuis l'école. Nous avons la chance, nous dit-il, d'avoir un lien apaisé avec nos ados, de pouvoir converser, garder le dialogue évidemment, mais il n'est pas toujours aisé d'avoir confiance dans l'impact positif face à tout ce qu'ils reçoivent par ailleurs. Et en effet, j'ai l'impression que les parents, c'est ce que vous avez ressenti, Marie-Christine Gamba. À la maison, c'est facile. Et puis dès qu'on les lâche, ça devient, on ne sait pas.
C'est même pas tant dès qu'on les lâche, c'est dès qu'ils sont confrontés aux écrans, aux réseaux sociaux, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle ça me semble important dans le film d'avoir Pauline Ferrari, qui a écrit son bouquin « Formée à la haine des femmes », qui a enquêté sur les réseaux masculinistes. Et Pauline m'a expliqué, en fait, elle s'est créé un faux profil TikTok, où elle s'est fait passer pour un adolescent de 17 ans qui s'était fait quitter par sa copine, ça nous est tout est arrivé un jour, et elle dit, sans employer des termes particulièrement injurieux, en l'espace de 7 minutes montre en main, elle était assaillie par des dizaines de comptes masculinistes qui proposaient d'harceler en ligne cette ex-petite copine fictive, etc.
Ouais. Non, mais ça, Cédric, vous savez, vous connaissez ça par cœur, vous avez un podcast qui s'appelle Le Patriarcat, et vous le dites, hein, d'ailleurs, dans le film, vous recevez des messages, mettez vos mains sur les oreilles de vos enfants, mais alors, est-ce que ta femme t'a rendu tes couilles? Voilà. Va bosser, enfin, je veux dire, c'est de ce niveau-là, quand même. Non seulement il faut s'accrocher, et encore une fois, c'est à vous qui parle, hein. C'est bon, vous pouvez vous défendre, hein. Donc au moins vous avez cette chance-là.
Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est aussi que... Moi, ce que je pense toujours quand il y a des réactions très violentes comme ça, c'est que ça veut dire qu'on touche quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là où on doit être, dans le chemin qu'on veut prendre pour une société meilleure. Et donc voilà, si ces gens attaquent, c'est bien que quelque part, on montre des modèles, des nouveaux schémas qui viennent profondément déranger les fondements même de leur pouvoir, parce qu'en fait c'est le pouvoir le sujet. C'est le pouvoir qu'on exerce sur les femmes, le pouvoir qu'on exerce sur les enfants bien évidemment aussi, et donc on les dérange. Après, c'est sûr que c'est pas des moments faciles, hein, le cyberharcèlement, mais fort heureusement, que ce soit dans les groupes militants ou avec des liens solides dans la famille, ça passe quoi. Je voudrais juste me réagir par rapport aux adolescents, parce que je pense qu'il faut juste rappeler une chose, c'est que nous, notre job de parents, c'est pas de changer on peut essayer de changer la société, on essaye, mais on va pas le faire nous-mêmes. Par contre, c'est par rapport au message WhatsApp, c'est déjà formidable qu'à 16 et 13 ans, ses enfants lui parlent librement à ce papa. Plein d'adolescents, en tout cas dans ma génération, ça n'arrivait pas, surtout sur des sujets comme le genre, quoi. Donc c'est déjà un travail formidable qu'il a réalisé.
On est en train de parler éduquons nos fils dans le téléphone sonne avec Marie-Christine Gambard, qui est réalisatrice d'un documentaire qu'on voit mercredi sur France 2 qui s'appelle Éduquons nos fils, avec Cédric Ronstein qui est l'un des pères du documentaire et qui a un podcast qui s'appelle Papatriarcat, et avec Floriane Volt qui est directrice du plaidoyer de la Fondation des Femmes. Et avec vous Lucie, vous êtes à Paris, bonsoir Lucie.
Bonsoir.
On vous écoute Lucie.
Donc moi je suis maman de deux petites filles. Et c'est vrai que c'est une question avec mon conjoint dont on n'avait jamais parlé, la question du genre. Étant ingénieur en génie civil, quelqu'un qui a toujours cuisiné, enfin, je m'étais jamais doutée que c'était un sujet à aborder avant qu'on ait des enfants. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec nos deux petites filles, alors que lui était semi-pro en rugby, il estime que le rugby féminin, ce n'est pas pour les filles. Que le football féminin, ce n'est pas pour, enfin, que c'est pas des sports de filles. Quand j'essaie de leur acheter des jouets, des camions, en fait, je veux qu'elles s'intéressent à tout, comme toute maman. Il les dénigre en disant que c'est pas des jouets pour des petites filles. Il leur met des dessins animés, alors que je suis anti-écran, il leur met des dessins animés de princesses. Ma fille me dit que je suis pas belle quand j'ai pas de robe. Elle me parle de mariage et de prince depuis qu'elle regarde ça. Elle veut des robes tous les jours. C'est pas le fait de mettre des robes qui me dérange. C'est que j'avais sous-estimé l'importance de cette question avant qu'on ait des enfants. Et que je me rends compte que cet homme qui correspond pas du tout à ce qu'on pense des personnes qui sont aussi arquées sur cette position-là de genre. Et qu'en fait, c'était quelque chose à aborder de façon aussi importante que la religion ou autre, parce que là, ça met clairement notre couple en péril. Hein. Ça va aussi loin, quoi. Donc, ça concerne aussi les mamans de petites filles.
Merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. Merci vraiment. Ce que j'entends, Floriane Volt, dans ce que nous dit Lucie, c'est effectivement un garçon comme une fille. J'ai une fille, je veux qu'elle ressemble à une petite fille. Alors, je pense qu'on met derrière « ressemble à une petite fille », mais vraiment, les princesses et le reste. J'ai un petit garçon, je vais lui offrir des camions. Comme ça, les choses seront bien rangées. Et encore une fois, ça mesure le chemin qui reste à parcourir quand même. Je pense que ce que nous dit Lucie sur son conjoint là, c'est qu'il a la trouille en fait, que sa fille soit pas je sais pas quoi d'ailleurs, mais ça parle de peur finalement.
Oui, alors déjà j'ai beaucoup d'empathie pour madame et son témoignage, et en effet c'est vrai que ça nous parle de peur, et c'est dommage parce que en fait protéger les enfants contre les stéréotypes et agir contre les stéréotypes, c'est aussi leur donner plus de liberté. Et moi, je trouve que les petites filles qui, quand on les voit courir dans la cour de récré, elles dégagent une liberté qui nous donne de la force aussi à nous les adultes. Donc comment, je crois que j'avais jamais entendu de témoignage comme celui-ci, et ça m'interroge vraiment sur comment trouver les mots, puis ça nous montre à quel point l'éducation qu'on donne à nos enfants, elle doit aussi intégrer les modèles qu'on leur fournit, les discussions qu'on a. Et ça nous montre aussi le rôle fondamental, comme ça a été dit par Cédric avant, le rôle des pères, et qu'on voit dans le documentaire, le rôle des pères, des mères, il est fondamental pour construire aussi cette égalité. On a vraiment tous et toutes un rôle à y jouer.
Il y a cette scène évidemment qui est marrante. Moi, j'ai trouvé que c'était chouette quand vous êtes tous les... Attends, parce que du coup, je confonds un peu. Est-ce que c'est vous qui êtes autour du barbecue aussi?
Ouais,
c'est ça. Vous êtes trois autour du barbecue.
Il est parfait dans cette séquence.
En disant, allez hop, pouf, en train de mettre les saucisses. On fait tous la même chose. Et je trouve que toute la difficulté, c'est exactement ça, en fait. Vous avez évidemment le droit de le faire, enfin, je veux dire, et puis surtout si, dans un moment comme ça, les femmes préfèrent aller couper les légumes, moi, personnellement, je m'en fous. Mais ce qui est drôle, c'est juste de s'en rendre compte, de se réveiller ce matin, de se dire, ah ben, nous voilà bien. On est pile dans le stéréotype, c'est venu hyper naturellement, en fait.
Oui, complètement, mais je pense qu'après, on n'est pas obligé non plus de tout enlever.
On
ne
va pas en faire un drame, on n'allait pas voilà. Subitement dire, lâchez les saucisses, donnez-les à quelqu'un d'autre.
Le sujet, c'est... Pour d'autres sujets, ça peut être des questions de compétences, mais ça peut être aussi... Voilà, pour moi, le sujet, c'est est-ce que les stéréotypes, ou en tout cas la présence de stéréotypes, génère de la souffrance. Mmh. Quand on entend l'auditrice,
ouais,
c'est clair que oui. Voilà, nous, chez nous, le barbecue, ça génère pas de souffrance, mais on est dans le stéréotype. mais c'est ça qui est important. Et moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer une personne qui s'appelle Maxime Ruzinski, et qui disait dans mon podcast que les stéréotypes, c'est un peu comme un doudou chez plein de gens. On les prend pour se rassurer. Ouais. Et moi, je me dis que ce papa, en fait,
il
s'accroche au stéréotype de ses filles parce qu'il a besoin de se rassurer, parce que sinon, et là, je citais Boléwa, qui est dans le documentaire.
Celui qui est danseur.
Sinon, il se retrouverait vulnérable. Mm-hmm. Et nous, les hommes, on ne doit jamais être vulnérable. Donc, ce monsieur, en fait, il prend ses décisions pour éviter cette vulnérabilité. C'est dommage. Mm-hmm. On pourrait découvrir que la vulnérabilité, c'est une immense force.
Mais peut-être qu'il a peur aussi, peut-être que vous en avez rencontré, Marie-Christine Gabart, peut-être qu'il a peur aussi que ses filles, au fond, ne soient pas à leur place et soient malheureuses si elles ne sont pas exactement telles qu'il imagine qu'une petite fille doit être. C'est aussi bête que ça.
C'est pour ça que je lui conseille de regarder le documentaire, parce qu'il y a cette séquence dont on a parlé tout à l'heure avec Philippe Deux, qui est donc prof de sport à Aulnay-sous-Bois. La meilleure des réponses est là, quand il fait jouer les petites filles au foot.
Il fait jouer les petites filles au foot, mais c'est lui qui, dans la salle de classe, leur dit: est-ce que vous croyez qu'il y a des sports pour filles et des sports pour garçons? Et elles répondent: absolument.
Bien sûr.
Il y a même un gamin qui dit:
l'équitation n'est pas un sport pour les garçons. Oui. C'est quand même extraordinaire.
Bah, c'est quand même imaginaire. Ouais, je sais pas d'où ça sort d'ailleurs, mais. j'ai quand même souvenir de ce petit garçon, donc ils ont 13 ou 14 ans, ils sont en 3e, qui dit: moi, si mon fils veut faire de la danse, ce sera non. Illico presto. Enfin,
mais il explique aussi que le foot féminin, finalement, ça existait bien avant d'être interdit, etc. Mm-hmm. Et en fait, la meilleure réponse qu'il donne, c'est une fois qu'il a tout expliqué, c'est de les mettre sur un terrain. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que ça marche tout seul et qu'il y a même des petites filles qui courent plus vite et qui mettent plus de buts que les petits garçons.
Vous avez eu peur pour vos enfants, vous, Cédric Rochetagne, ou pas? Est-ce que vous l'avez eu dans un coin de votre tête, ça, en disant: attends, alors, c'est une petite fille, un petit garçon, faut que je les élève comme ci, comme ça, etc. Ça vous a traversé l'esprit ou pas?
Non, moi ce qui me par rapport à l'éducation, notamment là, ce qu'on peut parler d'éducation non-genre entre guillemets, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'on doit obliger les petites filles à d'aimer les voitures. Hein. On ouvre juste le champ des possibles.
Donc,
déjà, on enlève une grosse pression.
Exactement. Par contre, elles ne sont pas obligées de se mettre à la boxe non plus.
Les choses qui me font peur à moi, et je pense que ça, c'est des questions que les pères se posent pas assez. C'est que on a souvent peur. Hein. Je veux dire, à un moment donné, les gars qui écoutent, désolé, mais il faut dire les choses, on a souvent peur pour nos filles. En se disant: mon Dieu, mais si elle sort dans la rue, etc., on sait très bien de qui on a peur. Mmh. On a peur des hommes, et des jeunes hommes en l'occurrence. Par contre, on ne se pose pas la question: mais est-ce que mon fils va être un agresseur? Parce que ces filles qui se font agresser, elles ne sont pas agressées par n'importe qui, elles se font agresser par d'autres jeunes hommes ou par des hommes. Donc, et je pense qu'il faut qu'on ose se poser cette question-là. Au lieu de dire protégeons nos fils, éduquons nos fils, et surtout
protéger aussi vos fils de même, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et protégeons nos fils de ces stéréotypes et de cette influence masculine qui les détruit de l'intérieur.
Allez-y, Marie-Christine Gambard. Gambard, pardon, excusez-moi.
Pas de souci. Ce qui m'a aussi importé dans le film, à un moment donné, et ça, c'est dit à l'issue de la séquence que j'ai tournée avec Lucille Pétavin, qui a donc écrit un livre sur le coût de la virilité, qui chiffre donc cette virilité pour la société. C'est qu'au fond, et ça, j'espère que ce message-là va être entendu, c'est que les hommes, si les femmes sont victimes, effectivement, de la violence des hommes, les hommes le sont aussi. Et c'est vrai que quand on réalise que un petit garçon de moins de 14 ans a 70% de chances de plus d'être victime de ses comportements qu'une fille, ça fait réfléchir quand même.
Alors son calcul, il est un peu spécieux. Elle dit en gros que le coût de la virilité, c'est 100 milliards, puisque les frais de justice, à une écrasante majorité, ce sont des hommes qui se retrouvent devant la justice. Les destructions de biens, à une écrasante majorité, ce sont les hommes qui font la destruction de biens. Les accidents de la route, c'est très impressionnant, c'est 84%. D'accidents mortels, absolument. Donc elle chiffre à 100 milliards d'euros par an. Peu importe la somme, en fait, c'est quand même très, très violent de se rendre compte, effectivement, pour ce qui est de... Je crois que c'est 97% des incarcérations, ce sont des hommes.
Sont des hommes en prison.
Quand on voit ces chiffres-là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas au début, en fait, et qui doit pouvoir, à un moment, s'arranger. Floriane Volz, qu'est-ce que vous en dites?
Oui, alors...
Si on y travaille.
C'est vrai que nous, à la Fondation des Femmes, on aime beaucoup le travail de Lucille Pétavin, parce que on aime les chiffres et on fait aussi des rapports sur les chiffres.
C'est une manière de sauter des choses au visage,
voilà,
en fait.
Un rapport en 2022 avec elle, à partir de son chiffre du coût de la virilité, qui montrait que l'ensemble des inégalités coûtait 115 milliards à la société française par an. C'est vrai qu'à l'heure où on essaye de faire des économies budgétaires, je pense qu'on devrait pouvoir s'y intéresser. Et c'est une vraie question, en fait, finalement. L'aveuglement des politiques publiques à cette question du genre, à tous les sujets de la vie quotidienne des personnes. Vous parliez de la santé mentale, la place des violences sexuelles dans la santé mentale, et on ne peut pas l'ignorer. Les questions de garde d'enfants, de prendre soin de nos aînés, de l'aidance, à chaque fois, c'est aussi des choses qu'on documente. On voit à quel point on repose sur du travail gratuit des femmes qui est généré par des stéréotypes, des rôles imposés. Et je crois qu'on a vraiment tous et toutes à y gagner. Alors, évidemment, à se poser la question, mais aussi à demander à nos politiques de tenir compte de ces données, parce que si on ne les voit pas, il n'y a pas de problème. Et là, c'est vrai que lorsque Lucile Pelletier-Vin nous dit 95 milliards d'euros par an, c'est ce que ça coûte les comportements virils des hommes, donc les comportements de domination. Je crois qu'on a quand même une incitation budgétaire très forte à y réfléchir, à éduquer nos enfants à l'empathie. Et puis, simplement, pardon, pour terminer là-dessus aussi, c'est vrai que protégeons nos filles, éduquons nos fils, c'est ce que vous disiez. Je crois aussi protégeons nos fils, parce qu'on a aussi des petits garçons qui sont victimes des hommes.
Vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Christine Gambard, et on retourne au standard.
C'est 95,2 milliards d'euros, c'est pas tant ce que coûte la violence masculine, c'est la différence d'éducation entre les filles et les garçons. C'est ça, ce qu'a calculé en fait... Lucile.
Bien sûr, oui. Voilà.
Mais
oui,
Donc ça veut dire que le coût de la violence masculine est encore supérieur.
Et on en a bien compris que l'idée, c'était pas à l'euro près et que donc on n'allait pas transférer tout ça et régler le problème de la dette, mais ça montre à quel point, à remarquer, tant qu'on est parti, mais ça montre effectivement à quel point il y a cette différence-là. Claire est avec nous. Bonsoir, Claire.
Oui, bonsoir.
Je vous ai fait patienter, merci. Claire, pardon, on vous écoute.
Non, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, déjà, merci de prendre mon appel. Voilà, moi, je souhaitais juste témoigner. Il y a beaucoup de choses qui me font réagir dans votre émission. Mm-hmm. Je suis moi-même maman de deux jeunes garçons qui ont 9 ans et 11 ans. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, dans éduquant nos enfants, il y a protégeant nos enfants, protégeant nos garçons. On a souvent affaire le soir à des retours à la sortie de l'école de nos garçons qui témoignent de difficultés qu'ils ont pu rencontrer avec certaines de leurs camarades. Ils sont parfois exposés à une certaine violence de la part de leurs petites camarades et pas seulement de leurs petits copains garçons. Et c'est des choses qui les interrogent déjà beaucoup, enfin qui les malmènent, hein, et qui les interrogent. Donc on s'efforce de déconstruire un petit peu certains stéréotypes et puis de les interroger sous forme de questions ouvertes pour savoir ce qui les heurte et puis ce qu'ils aimeraient eux. Et effectivement, en protégeant nos enfants, en tant que maman en tout cas, je mets beaucoup de cœur à essayer d'amener beaucoup d'empathie dans notre éducation et de faire d'eux pas des garçons, mais des êtres humains en fait qui ont envie d'évoluer avec d'autres êtres humains. Et je voulais aussi rebondir, excusez-moi, sur une question que vous avez posée. Est-ce que parfois on s'interroge si nos enfants pourraient être des potentiels agresseurs ? Alors, moi, je me suis déjà fait cette réflexion. Tout simplement parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a été, on va dire, agresseur il y a longtemps. Et donc, je me suis dit, à quel moment un enfant qui est élevé avec de l'amour pourrait vriller, en fait ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui occupe mes pensées. Mais malgré ça, on met tout le cœur à l'ouvrage.
Oui, j'imagine bien. Claire, merci beaucoup. La paire de vriller, ça nous ramène moins à vos pères, Marie-Christine Gambard, qu'à adolescence aussi. Mais tout ça est finalement très lié. Ça vous traverse l'esprit, Cédric Rochestein, ou pas ?
Oui, complètement. Mais ça, c'est un énorme sujet. Après, si on voulait élargir un peu la vision pour sortir des garçons-filles, je pense que le vrai sujet aussi là-dedans, c'est comment est-ce qu'on respecte les droits des enfants, tout en leur apprenant à respecter les droits des autres. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment dans la société française. Voilà, on parlait de backlash aussi. Aujourd'hui, il y a un backlash qui est très net en France sur tout ce qui est les droits de l'enfant et l'éducation sans violence. Tout ça, c'est très lié. Attention, à partir du moment où on met de la domination d'adultes sur l'enfant, on apprend aussi que la domination, c'est un mode de fonctionnement.
Il y a Mathilde sur WhatsApp qui nous dit aussi, Floriane Volt, que ce qui ressort de la conversation de ce soir, de certains témoignages, c'est au fond peut-être une espèce de forme d'homophobie latente dans la société, nous dit-elle. C'est-à-dire que pour que il faut qu'une petite fille ressemble à une petite fille, un garçon ressemble à un petit garçon, et comme
vous
ça, on est...
de la haine des hommes.
Pas seulement, c'est vraiment l'idée de faire en sorte que les petits garçons ressemblent aux petits garçons et les petites filles ressemblent aux petites filles. Donc, vous avez le sentiment qu'il peut y avoir ça de latent ou pas ?
Mais je pense que c'est la même...
Et ce truc qui fait oui avec la tête.
Non, mais c'est le même sexisme. Vous en fait, la haine homophobe, elle prend sa racine dans la haine sexiste, il me semble, dans la haine de ce qu'on... Enfin, voilà. Et c'est vrai que, ne serait-ce que si on parlait des modèles ou des jouets pour les petits garçons ou les petites filles, on va encourager sans problème une petite fille, enfin pas sans problème, mais même quand on essaye de faire quelque chose de un peu déconstruit, une petite fille à faire de l'établi ou des parce que c'est valorisé, ou faire du foot, ou et finalement on a beaucoup moins de modèles de petits garçons à qui on propose d'être de travailler en crèche ou de jouer.
Un exemple parlant là-dessus, c'est que l'expression garçon manqué existe pour qualifier une fille qui fait des trucs entre guillemets de garçon, donc on peut la valoriser comme ça.
Fille manquée, mais ça existe.
Fille manquée n'existe pas.
Bon. Manquée, non.
Juste une dernière question. Agostini le dit dans le film de psychanalyste qui parle, il dit à un moment donné une virilité en fait qui est toxique, c'est quoi ? C'est une féminité qui est mal assumée. Donc en fait, la peur est là.
Allez chercher la femme qui est en vous.
Exactement.
Merci beaucoup. J'avais une dernière question, mais je n'ai pas le droit parce qu'on a dépassé le temps. Merci beaucoup. Merci à tous. Éduquons nos fils, c'est diffusé mercredi sur France 2 à 22h55. Je vous remercie beaucoup.